VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal présidentiel américain 2016. Les électeurs ont commencé à voter sur la côte est du pays et ce après une campagne après disputée dont l'issue reste incertaine. La démocrate Hillary Clinton et son adversaire Donald Trump ont mis un point final à cette campagne de la nuit de lundi à mardi en offrant deux visions opposées de l'avenir à une Amérique meurtrie et divisée par 18 mois de joutes électorales d'une violence sans précédent. Idrissa Seloudia.
Hillary Clinton a appelé tôt mardi matin les électeurs américains à choisir sa vision d'une Amérique pleine d'espérance, accueillante et généreuse à la fin du tout dernier meeting de sa campagne pour l'élection présidentielle. Donald Trump a achevé mardi sa dernière réunion publique de la campagne présidentielle américaine avec la promesse de rassembler le pays derrière des frontières sûres et de faire de l'Amérique la priorité. Il est revenu symboliquement à 7 électeurs de Dixville Notch, dans les confins du nord-est des États-Unis, de lancer l'élection présidentielle en votant dans la nuit de lundi à mardi dans les montagnes des Appalaches. Quelques 225 millions d'Américains sont appelés à déterminer qui, entre Hillary Clinton et Donald Trump, succédera à Barack Obama à la Maison-Blanche.
Outre le nom du nouveau locataire de la Maison-Blanche, le vote de ce mardi aux États-Unis produira un nouveau congrès avec le renouvellement de la Chambre des représentants et d'une partie du Sénat. Quelques 225 millions d'électeurs donc sont appelés à renouveler les 435 sièges de la Chambre des représentants et 34 des 100 sièges du Sénat. La Chambre est aux mains des Républicains depuis 2011, 247 sièges de représentants contre 188 aux démocrates et le Sénat depuis 2 ans. Pour reprendre le contrôle de la Chambre haute, les démocrates doivent gagner 5 nouveaux sièges, les Républicains ayant 54 sièges de sénateurs face à 44 démocrates, plus 2 indépendants qui s'alignent sur les positions du parti de Barack Obama. Dans la pratique, une majorité qualifiée de 60 sièges est nécessaire au Sénat pour faire passer certains dossiers. D'après un sondage du New York Times publié ce lundi, les démocrates ont 56% de chances de reprendre la majorité au Sénat. En revanche, la plupart des enquêtes d'opinion montrent qu'ils échoueront à la Chambre des représentants. Il leur faut gagner 30 nouveaux sièges et ils n'en obtiendraient au mieux qu'une vingtaine.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique maintenant, Niger. 5 soldats nigériens ont été tués, 3 blessés et 4 autres sont portés disparus après une attaque terroriste menée tôt ce mardi matin à Bani Bangou, une localité de la zone de Walam dans l'ouest du Niger, proche du Mali. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source sécuritaire sous couvert d'anonymat. Un officiel nigérien a confirmé l'attaque survenue, dit-il, vers 4 heures du matin, heure locale, 3 heures temps universel. La zone de Walam est celle où se sont réfugiés les auteurs de l'enlèvement d'un humanitaire américain le 14 octobre. Et début octobre, un peu plus au nord-est, dans la région voisine de Tarawa, 22 soldats nigériens avaient été tués lors d'une attaque contre le camp de réfugiés de Tazalit. Cette zone de Walam, proche du nord du Mali, est située à une centaine de kilomètres seulement de la capitale nigérienne Niamey, est devenue très instable en raison de ces attaques meurtrières. Mais malgré des frontières considérées comme poreuses, le Niger constitue un îlot de stabilité dans une zone en proie aux troubles. Plusieurs pays voisins, dont le Mali, la Libye et le Nigeria, sont tous confrontés à des groupes armés djihadistes. En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires vont observer à partir d'aujourd'hui, mardi, une grève de 72 heures pour dénoncer une réforme des retraites qui baisse les pensions de 30 à 50%. Les détails avec Nani Talani.
Les grévistes protestent contre une réforme intervenue en 2012, mais dont les premiers effets se font sentir cette année avec la mise à la retraite des fonctionnaires touchés par cette loi. Elle fait passer l'âge de la retraite de 55 à 60 ans, voire 65 ans pour les plus gradés. Les cotisations augmentent de 6 à 8,33% du salaire, alors que les pensions ont été réduites de 30 à 50% selon les catégories. Par exemple, un professeur d'université de grade A7, le plus élevé dans la fonction publique, qui touchait 950 000 francs CFA comme pension de retraite, est à 450 000 francs CFA, explique Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public, qui regroupe 50 syndicats. Selon lui, il s'agit d'une grève d'avertissement de 3 jours qui va se durcir si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Les instituteurs ivoiriens visés par cette réforme ont donné le ton hier avec un débrayage d'une semaine qui est largement suivi.
République démocratique du Congo, une fillette a été tuée, 31 casques bleus indiens blessés aujourd'hui dans l'explosion d'une grenade à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Tous les blessés ont été acheminés à l'hôpital de la MONUSCO. Une enquête est ouverte pour déterminer d'où est venue la grenade, déclare la MONUSCO, qui est la mission de l'ONU en RDC. La Guinée équatoriale crie à la conspiration contre Théodorino Obiang Nguema, vice-président du pays et fils du chef de l'État. Fils du chef de l'État, le gouvernement équato-guinéen pointe du doigt certaines institutions de France et Suisse dans un communiqué. Âgé de 47 ans et promu vice-président fin juin par son père Théodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 37 ans, Théodorino Obiang est accusé de s'être battu. De s'être bâti indûment en France sur un patrimoine considérable. Il sera jugé à partir du 2 janvier à Paris dans une affaire dite des biens mal acquis. Et puis au Burundi, grincement de dents chez les transporteurs qui doivent s'acquitter d'une somme variant entre 1 $ et 13 $ par mois pour les frais de parking dans la ville de Bujumbura. La mesure s'applique dès ce mois-ci, mais les chauffeurs recherchent des voies de conciliation. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Les transporteurs de voitures demandent d'abord une consultation avec les autorités municipales avant que la mesure ne soit effective. Ces propriétaires d'ambus de transport à Bujumbura affirment que les taxes deviennent insupportables.
On ne peut pas travailler à perte, sans intérêt. On paie de l'argent pour beaucoup de documents. Contrôle technique, la taxe municipale, les documents du bus et payer aussi ses 500 francs par jour. En plus de cela, on paie une somme de 21 000 francs. Le transporteur ne pourra pas avoir toutes ces sommes.
Cet autre transporteur indique qu'il arrive que son bus de transport soit en panne, mais que la mairie continue à demander de l'argent quotidiennement.
On demande au maire de la ville de trouver des solutions à certaines difficultés qui surviennent fréquemment. Il arrive que le bus soit en panne. Il peut faire un mois dans un garage. À ce moment-là, où allons-nous trouver l'argent pour payer? Nous payons également d'autres documents administratifs. Nous sommes incapables de trouver cet argent.
Depuis plusieurs mois, le maire de la ville de Bujumbura a initié des programmes pour rendre la ville propre et sécurisée. Cette mesure de parking payant va dans ce sens, selon le maire de la ville, Freddy Monima. Christophe Kourounziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Somalie, de nouveaux combats dans la ville de Galkayou entre forces des deux régions. Le Puntland et le Galmudug, autoproclamés semi-autonomes, dans le nord du pays. Au moins 25 soldats sont morts et 30 blessés dimanche. Les deux camps se rejettent la responsabilité des combats. Les tensions entre le Puntland et le Galmudug avaient éclaté en septembre à la suite d'une frappe américaine visant des islamistes Shebab. Les explications de Laetitia Bader, chercheuse à Human Rights Watch en Somalie, qui explique la nature de ce nouveau conflit.
Ce qui se passe à Galkayou, c'est pas un nouveau conflit, c'est en fait des divisions entre deux des plus grands clans du pays, en fait, qui datent des décennies. C'est des divisions et c'est des problèmes qui n'ont toujours pas été réglés par les processus internationaux, etc. L'année dernière, il y avait déjà eu des confrontations meurtrières entre les milices de Galmudug et les forces et les milices du Puntland. Puntland est dans une situation administrative assez différente parce que depuis la moitié des années 90, en fait, la région du Puntland était déjà une administration autoproclamée et qui gérait sa région de façon assez différente que le reste de la Somalie. C'est quand même une région qui est beaucoup plus établie que la région de Galmudug qui a été créée l'année dernière.
Laetitia Bader, chercheuse à Human Rights Watch en Somalie. Et pour terminer, conflit en Irak, les combattants kurdes participant à l'offensive lancée par les forces irakiennes pour reprendre le groupe État islamique, leur fief de Mossoul, ont conquis au nord-est la localité proche de Bachika. Bachika est sous le contrôle total des Peshmerga, a affirmé au téléphone à l'AFP Yabar Yawar, secrétaire général du ministère de la région autonome du Kurdistan chargé des forces de sécurité. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.